RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. L'After est en direct bien sûr sur RMC Sport News pour analyser les résultats de cette soirée foot. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Pierre Ducrot est là. Pierre, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Daniel Rignolo est là, bonsoir.
Salut, Daniel. Salut, David.
Et nous avons ce soir notre sixième finaliste de l'After Academy, messieurs, dames. Il est là avec nous, Francis.
Salut, Francis. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir, tout le monde.
Salut. Bienvenue parmi nous. Francis, tu nous diras tout à l'heure un petit peu plus sur toi. Moi, j'ai bien aimé ta vidéo, surtout le personnage qui avait derrière toi dans la vidéo. J'en dirai plus tout à l'heure. La Ligue 1, c'est Nice qui bat Lyon ce soir 1-0. Et puis les autres résultats du jour, je vous les rappelle vite fait. Nîmes gagne 4-2 à Nantes alors que Nantes menait 2-0. Toulouse-Reims 1 partout. Montpellier-Monaco 2-2. Lille gagne à Guingamp 2-0. Rennes bat Saint-Etienne 3-0. Donc le tiercé de la Ligue 1, enfin le podium ne change pas évidemment. Paris, Lille et Lyon. Ce soir, l'essentiel en Ligue 1, vous le savez, c'est les 3 points. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Trois points de débat de chacun. Petit tour de table rapide, bien sûr, avant d'entrer dans les détails. Pierre, tes 3 points.
J'attendais vraiment autre chose des Niçois aujourd'hui. J'ai été très très déçu, même s'il y a victoire au bout. Honnêtement, je voyais pas ce match-là des Niçois, donc on en parlera. Je voulais mettre en lumière le seul Niçois qu'on pouvait tirer de ce match, c'est Benitez, qui réussit vraiment bien contre l'OL. Et le dernier point, je voulais qu'on parle un petit peu du match de cet après-midi Rennes-Saint-Etienne, que j'ai bien aimé. Voilà, pour plein de raisons, le stade plein, la prestation de Rennes, même des verts par moment. Voilà, un match où il y a eu plein d'occasions, il y a eu de l'intensité, un match agréable.
Très bien. T'as fait 3 points enchaînés en fait. Daniel, ouais. T'es 3 points.
Pourquoi tu... Non, fallait pas.
Non, je fais très bien.
T'as pas fait petit 1, petit 2.
Oui, voilà, c'est ça. C'était pas très bien. C'était pas matérialisé.
J'avais pas compris non plus.
Tu vois, Francis non plus. J'aurais été ton prof de philo, je t'aurais dit, c'est pas clair, monsieur Ducrot.
15 au bac en philo.
Sérieux?
Ouais. Je comprends parce que moi, j'ai tout compris à défaut d'être d'accord.
Bah, bien sûr, attends, faut pas.
Le premier point, pour moi, l'information du soir, c'est quand même la défaite de Lyon, un manque cruel d'efficacité. Le deuxième point, c'est la générosité de Nice, parce que moi, au contraire de Pierre, je trouve qu'ils font un bon match, sauf après, même si Benitez est très bon ce soir, j'ai pas trouvé qu'ils avaient particulièrement fait le match défensif, sauf une fois qu'ils ont mis le but, où là, effectivement, après, ils se sont tous mis derrière. Mais ils sont entrés dans le match avec l'idée de faire mal à Lyon, et ça, il faut le souligner.
À 10 minutes, quoi.
Et le troisième point, c'est sur le match de l'après-midi, c'est... Oui, Rennes, c'est bien, mais c'est le LOSC, c'est très bien. Parce que le LOSC, dans un match où ils sont parfois, et à des moments en difficulté, ils sont super costauds, et là, avec la défaite combinée à la défaite de Lyon ce soir, comment tu vas leur enlever la deuxième place maintenant?
On va en parler, bien sûr. Francis, tes 3 points.
Alors moi, mes 3 points, j'ai un premier point qui, je vais pas être très original, c'est le hold-up des Niçois. Donc clairement, ils ont pris le bouillon pendant tout le match pour finalement l'emporter sur penalty. Je pense que les Lyonnais ont manqué sérieusement d'efficacité, de précision dans le dernier geste, et je pense que contre le Barça, ben, ça risque de pas passer.
S'ils jouent comme ça,
S'ils jouent comme ça, je pense qu'ils auront du mal. Après, en même temps, je me disais que autant j'étais presque persuadé qu'ils feraient un bon match contre le Barça dans quelques jours, autant je savais aussi qu'ils allaient faire un match pourri. Ou un match piège, en tout cas, contre Nice.
De toute façon, t'as 40 secondes, fais gaffe. Hein.
Oui, c'est vrai. Mon deuxième point, ça va être l'accident industriel du PSG.
Et ton troisième point?
Du PSG. Et troisième point, c'est l'OM qui enchaîne avec une deuxième victoire. Donc, c'est bien parce que Garcia, du coup, va pouvoir dire.
Toi, tu reviens hier,
bien.
Toi.
Ah, je reviens hier. Moi, tu m'as dit que je pouvais dire ce que je voulais. Donc,
c'est vrai, tu aurais pu parler pour déjeuner aussi.
Oui, mais alors, le problème, c'est qu'en fait, même si tu soulignes les deux points que tu as soulignés, en fait, on pourra pas en parler ce soir. Parce qu'il y a tellement d'actu aujourd'hui.
Ouais.
Il aurait dû te dire, tu dis ce que tu veux, mais des trucs dont on va pouvoir parler ce soir. Sinon, les deux derniers points.
Après, moi je comprends Francis, il vient qu'une seule fois.
Il a balancé la purée surtout.
Parce que là, en fait,
j'ai tu veux parler la victoire de l'OL contre City, vas-y, quoi.
Ouais, en fait, si tu veux, le truc, c'est que là, ton point 2, ton point 3, tu vas les ramener à la maison.
Ah, c'est ça.
T'as quelqu'un pour en parler chez toi?
Ouais, j'ai des amis
pour en parler. T'en parleras avec tes amis alors du point 2.
Sinon, on a les points de Gilbert. C'est au choix.
D'ailleurs, on les a. Alors, non, évidemment, il faut qu'on démarre sur la victoire de Nice face à Lyon. Donc je vois, alors finalement vous êtes pas d'accord tous les trois là, puisque toi Daniel tu loues ce soir le match des Niçois.
Incontestablement, Lyon est meilleur. En plus, ils sont dans une bonne dynamique. Ils prennent le match en main. Mais moi, sur toute la première période et jusqu'au but, il y a une domination des Lyonnais, mais c'est pas une domination écrasante. On n'a pas une équipe de Nice. Enfin, la plupart des équipes de Ligue 1 ne jouent pas avec la générosité des Niçois en essayant de jouer les coups, de ressortir les ballons. En plus, je trouve que techniquement, ils sont pas maladroits. Ils essayent de jouer au foot. C'est pas des savates devant.
C'est ce qui est bon dans le foot, parce que moi, je te jure, j'ai pas du tout vu ça.
Ouais, moi je suis pas d'accord non plus.
Je te jure, j'ai pas du tout vu ça.
Je sais pas. La domination, enfin les Lyonnais, ils ont 55 de possession, ils ont le double en tir à peu près.
Oui, mais à la mi-temps s'il y a 3-0, il y a rien à dire. Je veux dire,
il leur manque de l'efficacité.
Il leur manque des
compétences aujourd'hui dans les 30 derniers matchs.
Mais moi je vous dis pas que Lyon, évidemment qu'ils sont supérieurs. Moi à aucun moment, même quand il y a le but, même sur avant le but, je me dis Lyon va s'en sortir. Lyon c'est plus fort. Lyon ça commence à se mettre en route. Ils ont les occasions, ils ont les coups francs. Évidemment que je vois la supériorité, mais je ne vois pas une équipe en face que
moi je veux dire en fait ce qui me fait réagir, c'est quand tu me dis que les Niçois techniquement ressortent
moi j'ai trouvé techniquement ça joue au ballon à Nice.
Ça tient du miracle.
On l'a tous dit
le travail de Vira, moi je trouve excellent.
Non mais
je trouve que Vira travaille très bien avec son équipe.
On peut parler sur le fond de ce que fait pas de Vira à Nice,
mais au Walter Cyprien, ils se sont pas fait. T'as vu Dombélé à Ouar, tu les as vus ce soir?
Ah oui.
Ah bien sûr.
Ah bien sûr.
Non, mais
bien
les gars,
ah bah oui.
Vous avez discuté pendant le match en fait.
Non, vous avez discuté,
vous avez picolé. Non, aussi.
Tu veux
Dombélé à Ouar, on ne voit jamais.
Dombélé à Ouar, ils ont été bons ce soir.
Bien sûr. Mais bien sûr, ils ont marché sur le milieu des soirs.
Je peux même dire une phrase de Lionel au bout de 70 minutes ou 65 minutes qui dit Ndombélé et Ouar sont très costauds ce soir.
Bien sûr.
Il leur a manqué des choses au Lyonnais, je peux te rejoindre. Je vais juste finir sur le travail de Pat Vira, parce que je veux pas qu'on assimile l'analyse du match là ce soir que je veux faire sur les Niçois à une analyse générale sur le travail de Pat Vira, parce que moi aussi j'aime bien ce qu'il fait à Nice. Et d'ailleurs ces derniers temps Nice faisait des très bons matchs, mais là honnêtement techniquement la première période ils sortent pas un ballon quasiment. Ils sortent pas de ballon.
On peut pas mettre en avant le travail de Pat Vira dans le sens où franchement, ça tient du miracle.
Soir, en tout cas.
Mais non, pour ce soir, ça tient du miracle s'il n'y a pas 3-0 à la mi-temps.
L'intention de Nice, c'est pas de subir tout le match, c'est d'essayer de faire quelque chose contre une équipe qui est deux fois supérieure.
Non, Nice ne propose rien.
La générosité dont tu parles, je l'ai retrouvée chez certains Niçois. Mais malheureusement pas chez tous. Et je vais te dire, on en a même plaisanté. On a dit que Burner était notre héros.
Vous avez oublié la première occasion du match. Vous avez oublié ce qu'a fait Ganago dans le match.
Alors les 10 premières minutes sont pour les Niçois.
Mais tu sais qu'ils ont été beaucoup dans le camp des Lyonnais. Hein. Vous êtes laissés endormir. Vous êtes réveillés.
Ils sont sortis. Ils sont jamais sortis.
Ok, c'est bien les gars.
Première mi-temps, ils sortent jamais.
Vous n'êtes pas d'accord.
À 2 ou 3 maximum.
On va prendre l'avis d'un Niçois. Tiens, Tony est là. Salut Tony.
Salut messieurs.
Bon, en tout cas, quand t'es supporter niçois, gagner avec un scénario comme ça, c'est royal.
Ah, c'est génial, c'est la deuxième fois de la saison surtout.
C'est vrai.
Le premier match, Lyon avait été encore bien plus dominateur.
Ouais, encore plus.
Et Benitez avait fait un énorme match.
Mais il a été déjà excellent ce soir. Mais le match aller n'a rien à voir avec celui de ce soir.
Vas-y Tony, on t'écoute.
Ils sont cocus les Niçois.
Bah, moi, ce que je voulais mettre en avant, parce qu'on a vu la stat du fait que Lyon a tiré plus de 50 fois en arrière-tour sans marquer contre nous, qu'on marque pas beaucoup dans le jeu, mais j'avais envie de mettre en avant la défense en fait, parce que sur l'ensemble du match, Dante et RL, ils sont monstrueux, surtout RL qui m'a fait une grosse impression.
Sur RL, je suis d'accord.
RL, ouais.
Dante, mais il est super fort, c'est le taulier ce soir, Dante.
Ouais.
Il est partout, il ressort les ballons.
Il perd énormément de ballons sur les sorties de balles, Daniel. Ouais.
Non, mais c'est pas lui qui les perd, c'est
lui qui les perd. Il peut faire la grosse erreur sur, c'est lui qui met le ballon à deux pailles. C'est lui qui met le ballon à deux pailles dans la surface. C'est une vraie erreur.
Tu vas retenir un truc, toi.
Non, mais je peux dire pas,
Dante a été meilleur que Dante.
Et Burner, on en a souvent parlé, on va laisser Tony remarquer, mais Burner, on en a souvent parlé, il a joué des 2-1, mais tout le match, il a été héroïque pour moi, et moi j'ai salué pendant le match le travail de Sarr aussi. Je mettrais Dante un tout petit peu derrière les trois autres, mais effectivement, défensivement, ils ont été généreux.
Et l'influence qu'il a, mais comment tu peux mettre Dante derrière les trois autres?
Bah, je peux.
Non mais moi je suis d'accord avec Daniel, on peut pas laisser Dante en dehors de ça, c'est le patron de notre défense.
Et bien sûr,
et en plus, si Lyon tire autant sans marquer, c'est parce qu'ils trouvent jamais de position favorable pour le faire. Voilà. Et c'est parce que la charnière centrale est bien en place.
Voilà. On va se mettre d'accord. Disons que RL, dans ce qu'il a fait, était un peu plus spectaculaire ce soir que Dante, ouais, notamment dans les 1 contre 1, quoi. Donc,
c'est lui qui tire les
sens. C'est plus efficace, justement.
C'est vrai aussi que RL, de son côté, il a eu un petit peu plus de taf parce qu'à chaque fois, il se retrouvait que.
Ouais, le jeu lyonnais a penché à gauche.
S'approchait à gauche et qu'à droite, Burner était tout seul parce que Maxima, il était.
Il faisait pas les efforts.
Donc ça fait qu'RL, il a dû forcément faire plus de boulot et par conséquent, on l'a plus vu.
Mais en tout cas, la défense niçoise, on est tous d'accord pour dire qu'elle fait un grand match.
Et c'est clair.
Mais c'est pas la première fois. Enfin, faut savoir quand même que nous, à part 2 matchs cette saison, on gagne toujours par un but d'écart. Donc même au-delà de la défense, en fait, c'est toute l'équipe qui a quand même, et surtout les milieux, qui ont un esprit de sacrifice. À partir du moment où il faut préserver un résultat, ça fait les efforts. Si Cyprien, il fait pas un bon match, il arrive pas à utiliser le ballon. Mais par contre, il a fait que courir partout. Tamézé, pareil. Bernard, j'en parle pas, mais il est défenseur. Mais voilà, je trouve que cette équipe, elle a vraiment du caractère, même quand on est en difficulté. On sent qu'on est capable de prendre des vagues.
C'est ce que je mettais en avant, la générosité, le caractère de cette équipe.
Si t'écoutes bien ce que dit Tony, et je le rejoins, effectivement, la générosité, mais en même temps, il t'a dit que Cyprien, avec le ballon, n'en avait pas sorti un, mais qu'il avait été généreux. C'est exactement ce que nous.
Mon point 2 s'appelle la générosité du gym.
Je te rejoins sur la générosité de l'intitulé, pas tous, tu peux pas dire que Maxima est généreux ce soir.
À un moment donné, est-ce que la générosité, ça fait tout? Parce que faut pas oublier que Nice, je crois que c'est l'avant-dernière attaque du championnat.
Tu sais quel joueur ils sont dans l'équipe par rapport à ceux de Lyon.
D'accord, mais à un moment donné.
Il dit pas de faire Strasbourg au Guingamp par Guingamp. Saint-Maximin ce soir ne est peut-être le seul à qui on peut reprocher un manque de générosité parce que en gros il s'est mis dans la tête que je vais jouer le contre tout seul, mais tous les autres sont au taquet. C'est quand même une équipe où il y a quasiment beaucoup de très jeunes joueurs en dehors de Dante, les mecs, mais putain, si tu me dis que équipe est pas héroïque aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle a fait?
Ils ont pas mis l'autobus en plus, mais quand t'as 18 équipes, il faut quand même se poser des questions.
Mais ils jouent mieux qu'un paquet d'équipes.
Je suis pas sûr.
Bon, les gars,
ce soir.
On va remercier Tony.
On peut pas parler déjà de générosité et de jeu en même temps. La générosité, je peux te rejoindre si tu veux, mis à part quelques-uns. Les sorties de balles, tu peux pas me dire qu'aujourd'hui Nice a été propre sur les sorties de balles, c'est pas possible.
Ils ont mal utilisé les balles de contre qu'ils ont eues, mais les premières sorties, les premières et deuxièmes passes étaient plutôt pas mal. Ce qui réussissait pas, c'était une fois qu'ils arrivaient dans le camp des Lyonnais. Ils commençaient à avoir beaucoup de mal,
Tony,
effectivement, à créer le danger. À l'arrivée, ils ont 4 tirs cadrés.
Salut.
Les Lyonnais en ont 5. Une équipe qui se fait écraser, tu sais combien elle a? 3-4 tirs dans un match. Vous savez les matchs qu'on regarde la plupart du temps qui sont nuls, parce que ce soir c'est un bon match de Ligue 1.
Il y a eu les
matchs pourris habituellement de Ligue 1, t'as 10 tirs en global et 2 cadrés. Ça c'est une moyenne qu'on a souvent. Ce soir tu as 34 tirs et t'en as 9 de cadrés.
Plutôt que de la balancer comme ça, faudrait la faire vraiment. Je suis pas sûr que des 2 tirs cadrés par match de Ligue 1.
Le nombre de matchs du dimanche après 2 tirs cadrés.
Ouais, mais tu plaisantes.
Non, mais tu parles de tous les matchs de Ligue 1.
Tu me parles pas du match.
Une équipe comme Lyon.
Tu parles de tous les matchs de Ligue 1. La moyenne est 2 tirs cadrés.
Je parle le nombre, les matchs où on s'emmerde. J'ai précisé. Essaye d'écouter ce que je dis.
La plupart des matchs où on s'emmerde, c'est les moins bons.
Sur les tirs cadrés, Daniel a raison.
Mais en Ligue 1,
tu sais quelle est la moyenne en Ligue 1?
Non, justement, c'est pour ça que
la moyenne en Ligue 1, depuis le début de la saison, c'est 4 tirs cadrés par match.
C'est déjà le double.
C'est horrible. Oui, mais ça veut dire que sur les matchs pourris, des fois, t'en as deux.
Mais non, je suis pas de mauvaise foi. La moyenne réelle, c'est déjà le double. Ce soir, c'est Nice qui les a mis. Nice, ils ont la moyenne ici en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais ça sera intéressant de les avoir. On ira les chercher.
Donc, tu as une équipe qui a un adversaire qui est au moins 2 fois plus fort que lui. Il arrive quand même à te faire 11 tirs, 4 cadrés. Me dis pas que cette équipe, elle s'est fait manger du début à la fin. Ça n'est pas vrai.
En deuxième mi-temps, elle a été meilleure.
Après, il y a effectivement, ils se mettent tous derrière. Et ils utilisent
Même avant le péno, ils ont beaucoup plus d'occasions, pour moi cette stat elle tient plutôt. Alors je vais dans ce sens là plutôt, elle tient parce que Lyon aussi a manqué de compétences, c'est le mot, de compétences pour bien gérer les situations dans les 30 derniers mètres niçois. S'ils le font mieux, ce soir les Lyonnais, ils ont mais deux fois plus de situations.
Si ils jouent bien deux trois comptes de plus, ça fait 2-0
entre, entre ça et le
Lyon. Si parce que des si, bah hein, tous les sens des si. Ils ont, j'ai été dit, c'est mon point 1, pour moi ce qui me marque c'est la défaite de Lyon. En premier point, et le manque d'efficacité.
Ça fait partie de ça.
C'est ça, ce que je dis. D'abord, c'est ça que j'ai noté. Une efficacité, un manque d'efficacité terrible, parce qu'ils ont mis l'occasion. Mais ne viens pas me dire que le manque d'efficacité, c'est un mauvais match.
Le manque d'efficacité des Lyonnais ne dépend pas du hold-up.
Un hold-up, c'est une occasion, un but, un hold-up. C'est pas un hold-up ce soir. Ça s'appelle pas un hold-up.
Lucas est là, au
32-7.
Pierre.
Je sais pas qui a dit hold-up.
Redescendons un petit peu. Lucas est avec nous, les supporters lyonnais. Salut Lucas.
Bonsoir à l'équipe, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bon, quelle analyse tu fais toi de cette défaite lyonnaise?
Très très déçu du résultat, parce qu'à mes yeux on perd ce match et on doit jamais le perdre. On joue pour moi contre une bonne équipe de Nice, mais Nice est très faible. Nice est très moyen. Devant ça joue avec Pélican, Wade, Ganago,
les gars. Mais ça c'est à la fin du match. Hein,
à la fin du match, certes. Ouais. Mais on commence avec Saint-Maximin, Ganago au milieu de terrain, c'est Walter. On doit pas perdre ce match, c'est impossible. Je pense que il y a un certain dilettantisme dans tout ce qu'on fait offensivement. On attend, on pense que ça va passer. Les interviews à la mi-temps. On est quasiment sûr de notre force et on attend.
Un petit complexe de supériorité.
Mais non, mais en fait.
Dominer
outrageusement, comme l'a fait l'OL, ça les a mis dans un fauteuil. Et l'OL, quand cette équipe est dans un fauteuil, elle s'endort. Parce que elle est sûre de sa force. Et tout à coup, on fait plus les efforts comme on les fait, on met plus le pied, on s'arrache plus comme on doit s'arracher. Et l'OL, c'est son problème. C'est qu'ils savent qu'ils sont supérieurs aux trois quarts des équipes du championnat. Mais quand ils mettent pas les ingrédients, et ça devient une équipe qui peut se faire battre par un Nice qui est très moyen.
Mais j'ai vu dans la mauvaise période de Lyon, dans le Lyon qui ne jouait qu'une mi-temps sur deux, dans le Lyon d'il y a encore un mois ou deux, on avait un Lyon mais nettement moins bon que ce soir. Ce soir, Lyon, ils font en dehors de l'efficacité, vous arrêtez au score, vous voyez le cas. Ils font plutôt un bon match, les Lyonnais, ce soir.
Ils font plutôt un bon match, les Lyonnais. L'efficacité
a manqué. Je sais pas si elle est due à un complexe de supériorité. Je veux pas faire de la psychologie là-dessus. Je crois pas. Elle est due à tout un tas de facteurs. Ouais, le dernier geste, Benitez qui sort un peu le match héroïque, la défense de Nice qui est très forte. Ils arrivent toujours à se mettre sur les trajectoires de frappe. Dès que t'avais un mec qui était dans la surface, c'est vrai, les Lyonnais parfois tergiversaient un peu. Ils arrivaient tout le temps avec un Niçois qui se mettait dans leurs pattes. Mais d'une, c'est un beau match globalement. Deux, par rapport aux mauvaises prestations de Lyon quand ils ont été battus cette année ou quand ils ont fait des matchs nuls.
Ça n'a rien à voir avec les matchs.
C'est beaucoup mieux. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Je pense qu'elle est juste anecdotique, la défaite de ce soir. Elle casse la dynamique. Ça sonne comme une rechute, mais c'est pas une rechute au goût de mauvais matchs ou de trucs pourris qu'on a vu de la part des Lyonnais d'il y a deux mois, ou même de matchs qu'ils ont pu gagner, ou même quand ils sont menés 2-0. C'est quoi le match? C'est contre Amiens où ils sont 2-0 et qui finissent et qui reviennent et tout, ouais. Les matchs où ils faisaient une mi-temps oui, une mi-temps non. C'est pas ça ce soir. On n'a pas eu ça. On a eu plutôt une bonne équipe de Lyon.
Sur Lyon, on a dit
Vieira direct dans sa conférence de presse, on écoute juste une réponse.
De leur donner moins d'espace, mais les joueurs ont été impliqués, déterminés, ils ont vraiment fait les efforts ensemble et ça nous a souri et c'est très bien pour nous.
Voilà, Patrick Vieira, on écoute encore une réponse, c'est en direct, c'est sa conférence d'après-match. Ah, on n'entend pas les questions, malheureusement. Vas-y, Patoche.
Le manque d'expérience, c'est un groupe qui est jeune. C'est aussi mon rôle à moi d'essayer de comprendre pourquoi on a du mal à enchaîner au niveau de l'intensité, au niveau de l'implication des joueurs. Mais ce soir, je leur ai reproché contre Lille. Mais ce soir, ils m'ont donné la réponse que je voulais et ils ont été extraordinaires dans ce domaine.
Voilà, donc là je pense qu'on parlait de l'implication et de la motivation de chacun pendant la rencontre. Voilà, Vieira évidemment satisfait, Nice a gagné 1-0 face à Lyon. Juste un mot quand même sur Saint-Maximin, parce que pendant le match, il y a deux trois moments où il nous a un peu exaspéré.
C'est comme d'habitude, hein.
Pas que nous. Mais c'est incroyable, il défend pas.
Neymar du Sud.
Avant de nous exaspérer, il a exaspéré son partenaire, Burner. On se rappelle du regard qu'il a eu sur une action où il joue où Burner, il est obligé de rentrer à l'intérieur, obligé de suivre Mendy. Il a l'agonie là, il arrive à gagner un corner à l'arraché, le premier regard, il est pour Saint-Maximin, il peut rien lui dire bien entendu, mais il a Burner, c'est pour ça qu'on en a rigolé et qu'on l'a salué, mais il a joué des deux contre un tout le match dès que Saint-Maximin jouait sur son côté.
Saint-Maximin, c'est un joueur particulier parce que de toute façon, dans sa tête, il est déjà plus là. Il se dit qu'il va finir la saison, mais bon, voilà, il y avait l'interview dans le CFC de lui tout à l'heure, comme d'habitude.
Ben, hein, justement, ouais.
Comme d'habitude, moi j'entends un garçon qui est très étonnant dans sa façon de s'exprimer, dans l'intelligence qu'il a pour comprendre ce qu'il fait, le foot en général. Mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas son intelligence à bon escient, c'est-à-dire pour d'abord travailler sur lui-même. Effectivement, il dit j'ai peut-être mieux compris le collectif, hein, mais enfin. Globalement, moi, j'ai toujours l'impression que, indéniablement, je le trouve intelligent, mais c'est comme s'il utilisait mal ça. Et bon.
Bah oui, il se gâche un peu, en fait.
Oui, en fait, son talent est incontestable, mais il sait qu'il va partir, que donc, son avenir n'est plus à Nice, que peut-être que ça le fait s'impliquer moins.
Il va partir, c'est sûr.
Mais quand il va partir, effectivement. Alors d'abord.
Parce que là, avec les prestations.
Mais en fait, le problème, c'est que quand il va partir, il va devoir réapprendre à jouer au foot. Parce que là, le gamin, il a 21 ans. C'est ça aussi tout le mal de notre foot
en
Ligue 1.
Il est jeune, hein.
C'est qu'il a 21 ans. Et c'est le patron de Nice. Enfin, l'homme qui a Nice fait la différence. Celui sur qui on compte pour faire la diff à la fin quand ils étaient vraiment aux abois. C'était bon. Si on a une, on va essayer de lui mettre dessus. Et puis comme il est capable de courir et de faire un beau geste, il va nous sauver. Donc déjà, il porte quasiment les espoirs d'un club pour faire la diff. Ben c'est biaisé ça... déjà. Le truc il est mort, parce que si normalement, je sais pas, il y a eu normalement dans un championnat, les tauliers, ceux qui font les diffs, c'est pas des gamins de 20 ans. Lui, tu mises tout sur lui. Donc déjà, il sait qu'il est le patron, il sait que s'il s'implique pas sur un match, t'inquiète, tu joueras le prochain. À l'entraînement, t'es pas à mort impliqué.
C'est ça, là. C'est dangereux, Francis. Parce que c'est...
Évidemment.
Parce que c'est leader de l'attaque niçoise, et que le mec, il a 20 piges, et qu'il est pas fini. C'est un talent.
Très précisément, 21. Mais ça change pas les hommes.
C'est un talent pur, c'est clair, mais il est pas terminé.
Ouais.
Et un petit peu comme Depay, avant, quand il est arrivé à l'OL, il avait une sorte de... Enfin, il était pas... Je le trouvais pas très impliqué dans le projet lyonnais.
Il est individualiste.
Il est individualiste à fond. Et Maxima, c'est un petit peu l'impression qu'il me donne.
Il a vachement changé de paille.
Dans le discours à l'extérieur, on a parfois l'impression, quand il fait son rap, des trucs un peu bizarres. Mais en revanche, Maxima, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que lui, il joue sa partition. Il fait ses trucs tout seul, il défend quand il a envie.
Il est très stat. Hein.
Il est hyper stat.
Il est même dans l'interview dans
on sent que
le mec analyse son jeu ce soir en termes de stats.
Voilà,
donc ça veut dire que tu es très sur toi-même.
Voilà, le sens qu'il est sur lui-même. Le décalage qu'il y a ce soir, tu parlais des stats du match tout à l'heure, je crois que c'est près de 30 centres des Lyonnais, je pense qu'il y en a les deux tiers, c'est
alors il y a 22 tirs.
On sent bien que ça lui pose pas un souci.
4 tirs cadrés sur 22 pour Lyon. Attention, parce que y a un chiffre qui va dans le sens de Daniel, 52% de position de balle pour Nice en première mi-temps.
Mais bien sûr,
les 10 premières minutes,
vous avez un petit four de
j'avais pas vu un.
Laissez-moi terminer. Genesio apparemment vient de dire en conférence de presse que c'était un hold-up.
Après tout, l'entraîneur le match, c'est un peu.
À chaud, il est déçu.
La position de balle, pour voir ce qu'on en fait avec aussi. Donc.
Oui, mais ça donne pas l'image d'un hold-up. Je sais, moi, je mets pas ça forcément en avant. C'est pour ça que je te dis, ils ont pas dominé. Ceux qui disent possession, domination, non. Mais on n'est pas du tout dans le cas de figure d'un hold-up. On n'est pas dans le cas de figure d'une équipe qui a écrasé. Et pourtant, je dis, elle est au moins deux fois supérieure.
Moi, tu sais pourquoi je vais pas parler de hold-up. Et c'est marrant. On l'a dit pendant le match, au fur et à mesure. on a dit, vu le manque d'efficacité, et c'est ça qu'on reproche aux Lyonnais ce soir, il y a qu'une chose, dans, moi dans le contenu, je trouve leur match intéressant, il leur a manqué les 30 derniers mètres, l'efficacité. Et pendant le match, on l'a dit Gilbert combien de fois, à un moment donné, il va se passer le mauvais corner, le mauvais coup franc, là ça a été un pénalty, et ils vont prendre
quelle
le
est
but.
La différence, excusez-moi, quelle est la différence entre la deuxième mi-temps de Nice ce soir et la deuxième mi-temps de Lyon la semaine dernière contre le PSG? Dites-moi. Si vous arrivez
la
à me dire
la deuxième période de Nice
ce soir et la deuxième mi-temps de Lyon la semaine dernière.
Ah moi déjà je trouve qu'il y a plus de compétences chez les Lyonnais pour sortir les ballons, tout simplement, déjà. Même si ça va pas
la
au
semaine
bout.
Dernière après le péno de la 48e.
Ouais quand même. Hein? Oui quand même.
Combien de fois ils sont passés dans le camp du PSG la semaine dernière?
Je sais pas, j'ai pas compté Daniel, mais
pour moi c'est
franchement, pour moi il y en a un peu plus quand même.
C'est à peu près la même chose.
Non, parce que quand je trouve
que la deuxième mi-temps des Niçois est quand même bien meilleure que la première, malgré tout, parce qu'ils sont, ils ont commencé à attaquer un petit peu plus haut.
Mais la première Nice, ils jouent, et la deuxième, ils se replient.
Ils jouent le bon premier quart d'heure. 10 minutes et un quart d'heure.
Ils jouent 5 minutes, ils jouent 10 minutes, Nice en première mi-temps.
Si tu veux, on va pas, voilà.
Écoutez, là, en deuxième mi-temps, ils montent de 30 mètres.
Je pense que
ils attaquent à 5, 6, alors qu'en première mi-temps, ils attaquaient à 2-3.
Francis, t'es à bloc.
Vous êtes isolé, je pense.
Toi qui finalises ce soir de l'After Academy. Raconte un peu, là, tu fais quoi dans la vie, tes passions pour le foot?
Moi, dans la vie, je suis ostéopathe. Je suis ostéopathe à Lyon.
Ah, t'es venu pour la consultation de Daniel, en fait.
Exactement. Il paraît qu'il a des petits problèmes de dos.
Je lui ai proposé une technique,
il a pas accepté, mais bon.
Ouais, non, bah, non. On parlera pas de cette technique-là.
On n'en parlera pas.
Ah, tu, direct, cette technique-là, toi.
Avec un gant, ouais.
Je croyais que ça se faisait plus, moi, ça.
Mais non.
Non, mais c'est un hommage à un joueur que Daniel cite souvent. Ouais. Le fameux rectal.
D'accord. Non, je connais la technique. Hein. Il y avait un célèbre ostéopathe dans le football qui, quand abusait, non, ça marchait apparemment pour ceux qui l'ont fait.
Parce qu'en fait, on dit que ça marche parce que tu veux pas revenir deux fois.
Dès que t'allais le voir, c'était ça.
Non, mais c'est normal.
Ah bah oui.
Juste que tu reviens jamais deux fois après une telle technique.
Donc on parle du toucher de notre ami Rekdal.
Bien sûr.
Il y a un gars qui faisait ça dans le foot.
Ah bah oui.
Il y en a plein.
Bien sûr. Oui, il était pas tout seul d'ailleurs, mais c'était un peu le truc rigolo quand t'allais voir. Je vais pas le citer parce qu'après tout ça serait pas honnête.
Bon d'accord.
Mais oui, effectivement, ouais. Mais un qui était très réputé. Hein. Mais la technique peut marcher peut-être, mais elle a. Je crois qu'on l'a fait de moins en moins quand même. On a trouvé.
Non, moi je la fais pas.
Non mais pourquoi on fait ça en fait? C'est un intérêt médical.
Non, c'est du pur plaisir.
Il semblerait que ce toucher rectal, permettrait un réajustement de la colonne. Après, moi, je la pratique pas. Je préfère faire d'autres techniques parce que par les techniques.
Parce qu'on n'est pas sûr en plus.
Si on n'est pas sûr, non seulement on a payé,
Daniel. On touche.
Et alors, ce qui était génial dans la vidéo que vous envoyez, Francis, c'est qu'il a dans ton cabinet un squelette.
Ouais.
Et en fait, on voit le squelette à côté de toi dans la vidéo. Et en fait, on ne regarde que le squelette parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là ce squelette. Enfin bon, ouais. Voilà. Bon.
Ah, et en fait, c'est ce qui me permet d'avoir. C'est ma façon à moi de me faire venir mes patients. C'est-à-dire que je mets un squelette et ça les attire. Donc,
bon, voilà. D'accord.
Donc, si vous voyez un squelette à Lyon dans un cabinet, c'est le mien.
C'est chez Francis.
Voilà. Bande de la Croix-Rousse.
1-0 pour Nice face à Lyon. Dans quelques instants, on parle des autres matchs. On va dire un mot évidemment de Lille qui gagne à Guingamp et qui continue sur sa lancée. Rennes et Saint-Etienne, ça va pas fort, hein. Mine de rien. Ruffier est pas en forme non plus. Bref, les autres matchs du jour au programme dans quelques instants. Et puis on n'oublie pas les infos PSG, puisqu'après-demain, c'est le match face à Manchester et là, la choumoune continue puisque ce week-end, c'est deux joueurs qui ont déclaré forfait, Cavani et Meunier en l'occurrence. On y revient dans la fin dans quelques instants.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là et Francis est avec nous, finaliste de l'After Academy. Il est là, Francis, ostéopathe donc à Lyon. D'ailleurs, Bilal nous dit ostéopathe à Lyon, donc Francis connaît Gourcuff.
tous les médecins,
le pauvre Gourcuff, quand je pense qu'il a tout le club.
Malheureusement, je l'ai pas soigné pour lui. Dommage.
Bon. S'il y a rien à rajouter sur Lyon-Nice, et on fait le choix de ne rien rajouter puisqu'il est déjà 23h32 et qu'il y a plein d'autres choses à dire.
On parlera demain, alors.
C'est pas vraiment un choix,
c'est un choix
qu'on nous impose, Daniel.
Ah oui, mais il faut bien qu'il y ait un semblant de conducteur, même si parfois on a l'impression que c'est le bordel général dans cette émission. C'est quand même un brin préparé. Lille, ils sont quand même deuxième du championnat, les Lillois, et ils enchaînent. Alors on peut croire que aller à Guingamp dernier, c'est facile et que c'est un peu le paillasson de la Ligue 1. Bon, bien après sûr, les résultats facile. Donnent plutôt raison aux adversaires de Guingamp, mais enfin c'est jamais, ça n'a pas été évident pour Lille cet après-midi de gagner à Guingamp. Ils ont su le faire.
Moi, ouais, c'est, je regarde, je commence à regarder les points là. Lille ne faiblit pas, même dans un match où, franchement, s'il y a un partout. Je pense pas que Galtier hurle au scandale. À l'arrivée, c'est Gourvennec qui est plutôt déçu en disant c'est un peu immérité. Oui, le score de 2-0 donne l'impression que c'est un peu propre. Le score logique aurait plus été un partout. Après, sur la fin de match, il y a eu le deuxième but et le pénalty de Rémy qui vient limite dans le temps additionnel. Aujourd'hui, si Lille gagne même les matchs comme ça où ils peuvent se faire surprendre par le dernier à concéder un point par-ci par-là, et dans la même soirée t'as Lyon qui se fait taper, bah l'avance commence à devenir assez confortable pour que Lille envisage très sérieusement la deuxième place.
Ils après sont, c'est peut-être pas le match le plus dur pour les Lillois quand même. Il y aura peut-être plus de difficultés.
Il y a 6 points d'écart ce soir
contre des équipes là qui sont dans ce wagon.
Oui, mais quand tu sais que de toute façon, à la limite pour eux, plus ils sont face à une équipe qui essaye de jouer, qui va être habile,
ça marche.
Plus eux sont bien parce qu'ils profitent des espaces comme personne. Bah voilà, je t'assure, quand tu vois le match sur la seconde période, ils sont vraiment bousculés quoi. Tu vois.
En même temps, ce sont deux équipes qui ont vraiment des trajectoires totalement opposées. Je veux dire, il y a Lille qui s'accroche à la première place, on peut dire, hein, parce que si on enlève le PSG, ben c'est quand même les premiers du championnat.
Ah, tu raisonnes comme ça, toi.
PSG quand même, c'est.
Ils sont premiers,
ouais. Pas dans le même.
Non, mais ne choque personne. Parle de la deuxième place.
Donc, la deuxième place pour les sortir.
Pour les sortir, ça va être compliqué. Et en même temps, Guingamp, je pense que, inexorablement, ils peuvent commencer déjà la deuxième division. Guingamp, ils vont plonger, ils ont 14 points.
Moi, je pense que Lyon va venir les taquiner. Après, on peut pas dire, mais je pense qu'ils finiront pas confortablement comme aujourd'hui avec le nombre de points d'avance.
6 points.
6 points, c'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup et pas beaucoup, exactement. Une victoire, t'es à 3 points, ouais, t'es relancé.
Et tu reviens, tu flippes, tu descends dans ton dos.
Lille, ils ont quand même des certitudes. Déjà, je crois qu'ils ont 4 ou 5 victoires d'affilée.
Ils sont à 5 victoires de suite.
On sent qu'ils ont des automatismes. On sent que c'est.
Et ça avance, quoi.
Il y a Galtier qui est derrière, il y a quelque chose de pragmatique.
C'est plutôt le podium qui est bouclé, là. C'est le podium là. Tu sens pas d'équipe.
Tu sens pas Marseille.
C'est plutôt derrière pour la quatrième place. Non, l'année dernière, ça avait été un petit peu pareil. C'est plus autour de la cinquième que ça avait été disputé jusqu'au bout entre plein d'équipes. Et en tout cas, rapidement, le podium avait été clair. Là. Franchement, je vois pas comment comment il peut en être autrement là. Il semble calé dans l'ordre et la lutte derrière, c'est grosse baston, ça concerne
jusqu'à quoi? Jusqu'au 10e, 11e même.
J'exclus pas une grosse remontée de Rennes.
Tu peux descendre à la 11e place, la 5e à la 11e là.
Moi, je mets jusqu'à Rennes, je mets que ça peut être assez jouable. Jusqu'à Rennes qui est 8e avec 36 points, donc un point de moins seulement que Montpellier là, c'est toute cette zone là.
C'est des équipes qui n'y arriveront pas pour toi.
En dessous de ces équipes-là, non.
Mais comptablement, c'est très homogène.
Bon, rien à rajouter sur Lille Guingamp. On peut parler de Rennes Saint-Etienne, enchaînons.
Oui, ne serait-ce que pour Jérôme Thomas,
Moi, je vais vous dire, on parle assez peu de Ruffier cette saison. Ruffier fait une saison moyenne, hein.
Moyenne, je trouve ça.
Ouais, non, attends, moyenne, que tu parles de moyenne. Mais pas seulement Ruffier, mais en fait, on dit souvent que Lopez est le meilleur gardien cette année, mais en fait, Lopez, il est assez constant depuis quelques saisons. C'est juste que cette année, il y a Ruffier et Mandanda qui sont mais à la rue.
Ouais.
Moi, je les trouve vraiment.
Alors, déjà moyen, je trouvais ça sévère. Alors à la rue.
Ah si, Ruffier quand même.
Mais moins bien que d'habitude.
Il fait des erreurs auxquelles on n'était pas habitué.
C'est vrai pour les deux, hein, pour Mandanda et Ruffier. Alors là, c'est peut-être
beaucoup plus pour Mandanda.
Mandanda, quand même.
Autant pour moi, c'est vrai que Mandanda, c'est quand même.
Malheureusement, tu parles du deuxième gardien de l'équipe de France et de celui qui longtemps a été le troisième. Ça me fait penser à une chose qu'on a qu'on n'a pas mentionné dans le match du soir, c'est Léo Dubois, qui est un joueur que j'aime beaucoup depuis très longtemps.
Très, 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 très
et
bon.
Puisqu'on cherche un arrière droit en équipe de France.
C'est peut-être le futur de l'équipe de France.
C'est lui l'arrière droit de l'équipe de France aujourd'hui. Je vois pas de meilleur arrière droit.
C'est clair.
Excellent ce joueur. Vraiment.
Très bon. Laisse-moi le faire.
Ah, d'accord.
Tu disais quoi?
Il y a pas Pavard.
Bah, je crois
mais
pas.
Non, c'est incomparable.
Non, mais Dubois, il est très bon. Je suis d'accord avec toi sur Dubois. Alors, il y a l'enflammade.
Oui.
Lala, mais moi, j'y crois pas, parce que Lala, il a encore rien fait. Je veux dire, il a pas joué un match de Coupe d'Europe de sa vie.
Il joue pas à 4 derrière.
Il joue, exactement.
À un moment, on n'avait pas parlé de Bounassar aussi.
Exactement.
Mais oui. Je ne sais pas qui en avait parlé, mais pas qui.
Deuxième. On voit que j'aime l'OM ou pas? On sent.
Un petit peu trop.
Non, mais Francis, c'est, faut pas mélanger les émissions. Ici, Bounassar n'a pas été mentionné pour aller.
Ah, j'ai cru l'entendre quelque part. C'était une autre émission, je pense.
Il a été très, très bon encore, aujourd'hui. Ouais, après, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps aussi, quand même. Moi, je suis pour ne pas aller trop vite.
À partir du moment où Kimpembe est appelé alors qu'il a joué 3 matchs en équipe première du PSG, tout est possible.
C'est bon, capitaine de l'équipe de France.
Voilà.
Non, mais pour parler de Rennes Saint-Etienne.
Oui, François.
Moi, je trouve que Saint-Etienne, j'ai l'impression que depuis leur défaite cruelle contre l'OL, je me demande s'ils ont pas pris un coup, quoi. Parce que depuis, je sais pas, j'ai l'impression que ça vivote, ça joue sans vraiment jouer. Là en plus, ils n'avaient pas Kazri, ils n'avaient pas Mvila.
Oui.
Donc c'était.
De toute façon, Saint-Etienne, si t'as pas Kazri, moi je t'ai dit,
sans Kazri,
c'est vraiment ça tourne autour de lui.
Le match contre Rennes aujourd'hui est pas si mauvais que ça. Rennes est au-dessus, je suis d'accord. Il loupe l'immanquable Saint-Etienne. Alors il y a Diony, mais il y a surtout qui loupe sur un corner là, qui à 50 centimètres du but. Ouais, c'est ça. Je sais plus qui la loupe, mais il est à 50 cm.
Subotic.
Merci.
Pardon, j'ai dit Skouletic.
Moi, je voyais pas que c'était quand Subotic. Tu l'as dit, je dis mince. Mais Saint-Etienne est en dessous Rennes aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Rennes. J'ai beaucoup aimé Ben Arfa, Bourigeaud. Enfin, voilà, beaucoup de joueurs ont été performants.
Rennes, en fait, c'est une équipe où tu sens qu'il y a de belles capacités, mais qui,
Bah là, aujourd'hui, c'est cohérent.
Ouais, aujourd'hui, c'est très bien. Mais c'est comme s'il n'y a pas de continuité. Il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1 comme ça, où Saint-Etienne a eu une bonne période, et tu te demandes, alors pourquoi vous faites deux matchs où vous êtes bon, et puis le troisième, quatrième, c'est pas bon? Pourquoi Rennes, vous faites, trois matchs, un super état d'esprit?
Non, mais c'est depuis l'arrivée de Stéphane.
Pour
un début de
réponse. Tu l'as eu au début,
peut-être.
Après, il y a eu un trou, et là, ça semble repartir. Mais c'est, depuis un mois, c'était
moyen. C'est une équipe qui joue.
Ces équipes-là dépendent souvent d'un ou deux joueurs majeurs, et quand tu les perds, ça fait vraiment très très mal.
Non mais sur le collectif, la cohérence globale, on a trop d'équipes qui ne font pas les efforts ensemble 90 minutes. On dirait que c'est comme si ça manquait de souffle, comme si on était un peu fatigué, comme si on n'était pas capable de faire des matchs pleins, comme si on choisissait, il y a certains matchs où t'es plus ou moins motivé par rapport à d'autres. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est typique de notre championnat.
Je pense que ça, c'est le propre d'équipe pas super, c'est des équipes qui sont bonnes,
Alors, Francis, pour préciser, des équipes où l'exigence n'est pas là quotidiennement et à chaque instant.
Mais c'est le propre des équipes de L1.
C'est un problème qui est typique à notre championnat, parce que tu le retrouves également à Lyon.
Exactement.
À Lyon, qui est quand même une équipe où t'as des moyens, t'as des joueurs fantastiques et tout. Et puis, tu gagnes contre le PSG, tu perds à Nice.
Oui. C'est ça?
Enfin, oui,
c'est ça.
Mais Daniel, tu l'as dit toi-même,
t'as même pas une moyenne de 2 points par match en Ligue 1 quand t'es Lyon.
Daniel, tu l'as dit toi-même.
T'as pas 2 points par match et t'es à 15 points du PSG.
Daniel, tu l'as dit toi-même, récemment, les Lyonnais ont progressé quand même là-dessus. Et le match ce soir,
c'est
pas le même type de match qu'on
connaît. Mais on devrait pas le dire. Lyon a progressé. Lyon, il devrait être taqué dès le départ.
Le Barça contre Bilbao, ils ont fait match nul. Ils ont fait un match pourri, mais ils ont quand même réussi à tenir et à faire match nul. Là, tu vois, l'OL.
Ah ouais, on peut pas comparer.
Mais c'est une question
d'exigence dans notre championnat.
Si t'arrives pas à gagner un match, au moins essaye de pas le perdre.
Saint-Etienne, ils peuvent pas faire très bien, pas bien, nul. Enfin, tu te rends compte, c'est des va-et-vient incroyables.
Ouais, va-et-vient incroyable Saint-Etienne cette année, c'est plutôt pas mal, Daniel.
Kazri, il est bien, c'est bien. Kazri un peu moins bien, c'est pas bien. Et on démarre avec un avant-centre, et puis finalement c'est Kazri qui est avant-centre.
Mais ça, c'est le propre de ces équipes, Daniel. Tu es dépendant de
de ton ou de tes mais deux meilleurs joueurs.
Mais les mecs, ils ont quand même
pas
tout le temps.
Alors, il y a un problème avec autre chose.
Oui, facile à dire, mais à faire.
Mais soit bon, au moins 80% du temps, c'est bon 50% du temps, c'est pas assez.
Ce que je veux dire, c'est en Angleterre, en Allemagne, même en Italie, quand t'as un joueur majeur qui est moins bon, t'en as souvent un deuxième, un troisième, voire en Angleterre même un gardien.
C'est aussi une question de la relève.
Concluons sur Saint-Etienne avec Hervé.
Oui, peut-être aussi.
S'il vous plaît, Hervé est là, supporter des Verts. Salut Hervé.
Salut Gilbert, salut After.
Bon, qu'est-ce que t'en dis toi de la situation des Verts là?
On a
trois matchs en victoire depuis la défaite face à Lyon, comme le disait Francis.
Face à Lyon, voilà, on a une année 2019 qui démarre vraiment mal. Maintenant, c'est vrai qu'on a tout un contexte un petit peu particulier. Le derby gagné de manière un peu cruelle. Derrière une grosse gifle face à Dijon en Coupe de France. Le départ de Selnaes. Pour le match d'aujourd'hui, les absences combinées de Casri, de Envila, qui sont sans doute nos deux meilleurs joueurs. Huis clos qui avait eu des partiels pour les tribunes, pour les deux copes contre Strasbourg mercredi. Donc voilà, La période est compliquée.
Il y a deux matchs à domicile, Strasbourg et Paris derrière.
Ouais, Strasbourg-Paris derrière, donc période compliquée avec un calendrier en plus qui arrange pas la mayonnaise, on va dire.
Strasbourg, donc, début janvier, vous les avez battus 6-0. Bon, c'était l'Olympique, mais...
Oui, voilà. On aurait peut-être dû en garder 3 sous le pied pour les caler mercredi.
Pour le Racing,
on va voir, on va voir ce que ça va faire. On avait plutôt bien démarré, justement, 2019,
oui.
Cette victoire avec du sérieux, on avait évité le gros piège.
Et puis Guingamp et Marseille derrière, tu gagnes au début de saison, c'est le beau début d'année.
Non, mais là, je pense qu'ils sont
aussi,
ils font une petite dépression.
On pourrait parler aussi le match à Nantes, où c'était le premier match à la Beaujoire pour les Nantais depuis le drame concernant leur
équipe.
On a vraiment une période là qui est un petit peu compliquée. Maintenant, il y a Jean-Louis Gasset qui est là, c'est quand même le vieux tonton qui veille au grain aussi, donc je pense qu'il en a vu d'autres, comme on dit. Il y a des joueurs expérimentés dans l'effectif, Debuchy qui revient, qui a réussi à enchaîner, qui a joué son premier match ce soir, qui va pouvoir enchaîner a priori. Les retours de suspension qui vont nous faire du bien. Aïd Benacer au niveau des recrues, c'est peut-être pas la mauvaise pioche.
Mmh. Et voilà, après c'est vrai
que pour ce soir... Donc tu restes optimiste, quoi.
Ouais, je reste optimiste. En plus, ce soir, la défaite 3-0 est quand même très très sévère par rapport au contenu du match. Après voilà, ces histoires de pénaux, tout ça, bon, ça sert à rien d'en parler, mais sur le match en lui-même, très sévère de prendre 3-0.
Ok, je suis d'accord avec toi. Ouais. Rennes a été supérieur, mais 1 ou 2-0 aurait largement
suffi. Merci Hervé.
Merci à vous les gars.
Salut, à bientôt.
Saint-Etienne, on oublie souvent, mais il y a pile poil un an, Saint-Etienne était vraiment plus mal. Enfin, je pense que tous les supporters stéphanois et le club avec auraient signé pour être aujourd'hui 4e, 5e.
S'ils avaient changé toute l'équipe.
Oui, voilà, ça a commencé mi-janvier.
À propos de changer d'équipe, on va en parler dans quelques instants, puisque Der Zakarian a poussé une colère là contre Monaco. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Vous pourrez l'écouter et puis on parlera des mésaventures du PSG qui a perdu donc aujourd'hui Cavani et Meunier, officiellement forfait pour le match de mercredi face à Manchester. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Pierre Ducrot est là, Daniel Riolo est là, Francis, sixième finaliste de notre After Academy, qui est là avec nous ce soir. Comme promis, vous écoutez tout de suite Michel Der Zakarian, Montpellier-Monaco tout à l'heure, 2-2. Mais Michel Der Zakarian, lui, il n'est pas content du mercato de Monaco. Écoutez.
Monaco a changé d'équipe, plus la même équipe. Voilà, pour moi, ça fausse le championnat, c'est pas... pouvoir recruter, bon, et le mercato ça existe, mais ce mercato d'hiver devrait pas exister pour moi, à part un joker médical, le reste ça devrait pas exister, voilà. Pour l'équité du championnat, quoi.
Bon, d'accord, pas d'accord.
Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça?
Oui, sur le fond, moi je suis.
C'est le débat du mercato.
Je suis plutôt d'accord.
Mais la règle est telle. Le gars, il fait 2-2 contre Monaco, il arrive après, tu te dis, ouais, mais Monaco,
c'est pas juste. C'est pas juste.
Si, c'est juste parce que le règlement est comme ça et qu'ils ont le droit de le faire. Mais
non, mais c'est vrai que
c'est plus un problème de fond.
Typiquement, c'est pas juste. C'est sûr que voilà, t'as plus de moyens, donc forcément, tu peux acheter d'autres joueurs et puis repartir. Mais
tu peux être contre. Plus de moyens pendant l'été aussi.
La vie, elle est pas juste.
Tu peux être contre la règle du mercato d'hiver. Moi, j'aimerais j'aimerais bien que ça n'existe pas, mais à partir du moment où ça existe.
Ça existe, donc ça existe.
Qu'est-ce qui se passe l'été pour Monaco et Montpellier? Monaco a toujours plus d'argent que,
ouais,
que Montpellier.
Ah non, non, mais c'est en cours de route, c'est pas pareil, c'est en cours de compétition.
Ouais.
Donc on peut penser que c'est pas juste. Oui, bah, oui,
je les règlements, mais c'est,
je veux bien.
Bon, c'est pas là où
je pense que ce règlement ne changera pas.
Oui, voilà.
Bah oui.
Donc voilà.
Ah, ouais, ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr.
Ouais, non, c'est l'UFA ou la FIFA qui
voulait franchir. Moi, j'en suis pas sûr, Daniel. Ça mettra un peu de temps encore. Je sais pas que l'hiver prochain, il n'y en aura plus, mais.
Pas de problème. Moi, si tu me donnes, la possibilité de choisir, je l'enlève, oui.
Enfin, tous les clubs qui sont en mode trading, dont on en a quelques-uns en Ligue 1, ils voudront pas que ça change, par exemple. Même en Ligue 1, je suis sûr que les clubs sont partagés.
Tu sais quoi, je pense qu'il faudra s'habituer à faire autrement, mais ils feront leur trading l'été, et puis c'est tout, quoi. C'est pas gênant.
Alors, le PSG, messieurs, donc aujourd'hui, voilà, c'est officiel, Cavani et Meunier forfait. Donc la liste commence quand même à être assez longue, hein, évidemment, Neymar en plus. Alors Verratti, en revanche, bon, vous avez vu que hier ça a été, bon, on sait qu'il sera pas à 100%, mais enfin il va pouvoir jouer. Alors la grande question, c'est que se passe-t-il?
Enfin, il va pouvoir jouer 60 minutes.
Mmh. Oui, bah la Verratti quoi.
Bah, mais le problème, c'est que c'est
60, c'est plus que zéro. Parce que
c'est juste ce qu'il faut.
Question de savoir.
C'est juste ce qu'il faut.
Mais après, même si ça se passe bien jusqu'à la 60e, l'année dernière contre le Real, c'est pendant 80 minutes, ça, t'étais à un partout. Hein. Après, t'en as pris deux autres,
ouais,
et c'est fini.
T'as,
hein.
pas le Real.
Donc,
de toute façon,
il y a deux types
d'équipes. Si t'es à un match nul ou un, la période peut devenir compliquée. C'est 90 minutes un match.
Le problème pour moi, c'est qu'il y a deux types d'équipes. Il y a des équipes qui sont prêtes en août, et on a deux qui sont prêtes en février. Bizarrement, le Real, par exemple, ils sont très souvent prêts en février. Et le PSG, ben, chaque année, c'est la même chose. En février, il s'effondre. Là, cette année, ben, voilà, il y a Verratti qui revient, mais sinon, il y a Neymar qui est out, il y a Meunier qui est out, il y a, aussi l'autre, là, comment il s'appelle, Cavani qui est out. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a un problème de préparation physique?
Tu m'as dit l'autre, là.
Non, mais puis, ils m'ont tous énervé. Non, mais est-ce qu'il y a un problème de préparation, en début d'année? Est-ce qu'il y a un problème de staff médical?
Tout le monde a posé la question.
Moi, j'ai ma petite théorie psy, moi.
Il y a des prépas physiques différentes depuis plusieurs années.
Vu la nature des blessures, ça n'est pas lié à une préparation physique. Et ça n'est pas lié à ce genre de choses-là. Ce que tu dis, en revanche, sur le fait que, par exemple, aujourd'hui, le Real moribond, tous les ans, quasi, ils font le coup. Et en février, t'es obligé de te dire, bah, qui va les sortir de la Ligue des Champions?
Regarde ce qu'ils ont fait encore ce week-end, leur
Ça va être très dur. Ils ont donné, contre l'Atlético,
c'était
extraordinaire. Vraiment. Pour moi, et le sport de haut niveau, c'est quand même ça, pas principalement, mais en grande partie.
Le professionnalisme.
Le mental.
Bah, pourquoi donc si
à l'état d'esprit, le mental, comment tu abordes les compétitions et qui tu es humainement.
Le PSG, ils savent depuis, les joueurs savent depuis octobre.
Le PSG est omnibulé, obsédé.
Que c'est là que ça se joue.
Par ça.
Et comme par hasard,
chaque année, c'est la même histoire. Moi, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas à la fatalité, à la chkoumoun ou à tout ce que on va dire jusqu'à mardi soir au sujet des blessures des Parisiens. Je suis désolé, Neymar, dans ce match contre Strasbourg, calme-toi, joue tranquille, ne va pas provoquer, ne fais pas ci, essaye de penser.
Mais non, mais justement, tu parles contre Strasbourg. Mais moi, à un moment donné, j'ai envie de te poser la question. Est-ce qu'on a les couilles de pouvoir dire à un moment donné, excuse-moi pour les termes, mais de dire à un joueur comme Neymar, tu joueras pas ce match.
Mais là, c'est
parce
pas
que
pas
ça n'est pas un match comme ça qui va le faire gagner le ballon d'or.
S'en fout, il faut qu'il joue les mecs.
Mais non,
tu vas les mettre dans le format. Parce que c'est pas la même chose
de jouer contre une équipe espagnole et jouer contre Strasbourg.
Cela dit, Mbappé joue pas ce match, par exemple.
Je veux dire
qu'il aurait pu.
Mais pourquoi tu le fais jouer?
Mais en plus, Cavani n'en a pas joué d'autres avant.
Les mecs, tournent en fonction d'un temps de jeu qui est calculé.
Manchester, ils ont joué à Fulham, il y avait tout le monde.
D'accord.
Arrêtez avec ça, c'est pas ça le problème.
Tu le fais jouer. Et là, tu te rends compte que l'équipe adverse, tu sens bien qu'elle aime pas trop les petits passes
mais c'est genre, pas grave,
et les petites salles de corps de Neymar.
Ça fait partie du jeu.
Mais non, mais ça fait pas la preuve, ça fait
Francis,
partie du jeu qu'il est blessé à la fin.
Que, mais c'est parce que tu dois écoute ce que je te dis. C'est parce que tu dois anticiper ça que justement sur ce match-là, sur les matchs qui précèdent, tu fais pas ça. Tu fais un peu autrement. Tu fais un peu plus discret.
Neymar, il sait que jouer comme ça, c'est pas à lui de changer son jeu.
Il sait que jouer comme ça.
Il y a un moment, il faut être intelligent aussi dans la vie.
qu'il doit se dire.
Francis, s'il te plaît, Pierre.
Est-ce que Neymar jouait différemment quand il jouait au Barça? Tous les matchs. Est-ce qu'il prenait pas de coups? Il en prenait aussi. Comment il se blesse? Alors oui, il prend trois coups sur cette action, mais c'est le pied d'appui derrière qui se blesse. C'est un petit os qui rechute, qui recasse. Cavani, comment il se blesse? Cavani, on peut pas le targuer de pas être professionnel, de pas être mentalement très costaud. Ça doit être probablement celui qui se pose le moins de questions dans ce groupe-là.
Il se blesse en frappant fort.
Il se blesse en frappant fort.
Pourquoi il frappe aussi fort?
C'est quoi? J'ai entendu tout sur le ici même.
Il a jamais frappé
ailleurs.
Aussi fort que ça de sa vie un péno.
Je suis plein
pas
de fois
comme ça.
Non, je te jure.
Il a jamais mis un péno. Il a jamais frappé de cette façon.
Alors vas-y,
il a frappé des fois.
Refais-toi une série de pénalties de
Cavani.
Je vais au bout. Si Cavani sur un ballon arrêté au point de pénalty, quand il frappe coup du pied comme ça, c'est-à-dire en maîtrisant complètement son geste, il se fait un truc à la hanche. Alors tu sais quoi, si le penalty, il le joue à l'intérieur du pied, qui sait pas le truc à la hanche, 10 minutes après, la prochaine volée qu'il fait ou la frappe intérieure du pied qu'il fait, la hanche elle se blesse pareil. Parce que si tu te blesses sur un penalty, une phase arrêtée, t'es tout seul comme ça, ça te serait arrivé après. Donc je suis d'accord avec toi, c'est pas que du hasard, c'est pas que de l'âge commun. Il y a d'autres choses, mais on peut pas dire non plus. Tomber dans cette psychose où le PSG a un problème psychologique, tu veux que je te dise, Verratti, tu le dis souvent, il y a un problème pour moi d'hygiène de vie.
Là, il y a
une réalité. Neymar, il y a une rechute sur une fracture. C'est osseux, c'est pas dans la tête, ça. Et je suis d'accord avec Francis, il doit pas pour autant changer son style de jeu contre Strasbourg. Il s'est pas fait limer tout le match non plus, Neymar. Il a pris des coups, il a sifflé des fautes.
Déjà, tu t'adaptes à ton contexte. Neymar, mais quand tu parles de Neymar avant, c'est la Liga. La Liga, on ne savate pas comment Ligue 1. Tout le monde sait que la Ligue 1 est très physique.
Laissez parler l'année aussi.
La Ligue 1, c'est très physique. Donc tu sais que tu vas avoir des savateurs. Le savateur, tu l'évites dans une période pré-Ligue des Champions.
Déjà, quand on parle de Ligue 1 très physique,
je vais pouvoir finir une phrase.
Vas-y, t'en as fini plein, Daniel.
Tous les acteurs du foot partout en Europe savent que la Ligue 1 est le championnat probablement le plus physique.
Alors quand on dit physique, c'est pas uniquement les coups qu'il peut y avoir des fois. Hein. C'est l'intensité.
C'est la façon de défendre en bourrin.
C'est qu'il faut cavaler.
C'est de la défense de bourrin.
Non, là tu te trompes. C'est pas que ça, Daniel. Loin de.
C'est physique.
Demande aux joueurs. C'est pas que ça d'être physique.
Déjà, tu vas pas sur les coups. Tu fais attention. Déjà. Ensuite, il y a moi je sais pas. C'est chapitre 2.
Il va pas sur les coups, Neymar. Il en prend parce qu'il a un jeu, parce que son jeu est fait comme ça. C'est un jeu de dribbleur, c'est un jeu de provocateur.
Bien sûr, c'est pas
fait en tant que dribble. Donc forcément, tu prends des coups.
Que tu dis au Barça, il faisait un, sauf qu'au Barça, c'est pas lui la star du club. Et il y a 1000 autres joueurs de très haut niveau qui ont tout vu, tout fait autour de lui. Quand il vient au PSG, il s'adapte au contexte, au statut qui est le sien. Et donc, s'il ne change pas son jeu, il doit changer sa mentalité et sa façon d'être. Parce que les responsabilités qui sont les siennes fait qu'il est obligé de varier. Un joueur de foot, l'intelligence d'un sportif de haut niveau, c'est l'adaptabilité.
Pour
aller dans ton sens, c'est soit toi t'es en train de dire que c'est Neymar qui doit s'adapter. Mais pour moi, ce que je suis en train de dire, c'est que Neymar, il a une mission qui est celle d'être un jour Ballon d'Or. Donc lui, il va pas changer sa façon de jouer. S'il doit mettre 12 petits ponts dans un match, contre Villefranche,
déjà si tu dis que sa mission c'est d'être Ballon d'Or, déjà t'es dans l'erreur. L'erreur capitale est là.
C'est la mission qui s'est fixée.
On en revient à ce que je dis, à savoir que si le club n'est pas capable.
Mais voilà.
Alors, deux secondes. Si le club n'est pas capable de faire comprendre à ses joueurs, déjà, de les calmer par rapport à l'événement, de travailler psychologiquement sur cet événement qui est obsédant, qui trafique les têtes de tout le monde dans ce club,
Je suis pas sûr qu'il soit capable de leur dire ce match-là.
Voilà, de faire attention au contexte, à demander à un joueur. Maintenant que tu es là, tu n'es pas entouré par Messi, machin. On compte sur toi.
Mais on a fait tourner.
Est-ce que le club peut dire à Neymar ton anniversaire cette année?
Ah oui.
Si on faisait autrement. Le club pourrait peut-être être capable de se pencher aussi là-dessus sur la question. Le club pourrait peut-être se pencher sur l'hygiène de vie de Verratti depuis des années. Le club pourrait peut-être faire attention à comment ils ont géré Rabiot.
Le débat continue demain.
Tous ces petits éléments mis bout à bout font que les mecs sont dans une psychose. Que le PSG démarre le match contre Bordeaux avec l'idée. Il démarre le match contre Bordeaux avec l'idée de gagner sans forcer. Gagner sans forcer,
ça pousse.
le contre-exemple
ça fait 5 matchs ils sont
top. Dernière info, dernière info, Laurent Blanc, messieurs dames, déclaration du jour, il dit j'espère entraîner à la rentrée, sinon je m'orienterai vers autre chose. Donc il n'exclut pas de prendre sa retraite, Laurent Blanc.
Ça, à suivre, dommage, quand même.
Ce après, matin chez Téléfoot.
Mais pareil qu'au golf, il devient chaque jour plus fort.
Alors tiens, d'ailleurs, il dit, certains disent que je joue au golf toute la journée, c'est faux, même si je joue quand même un petit peu, dit-il.
Il paraît que ses progrès sont constants.
Demain, l'after sera à 22h. Évidemment, on sera la veille de Manchester PSG, donc vous aurez toutes les infos concernant ce match. Francis, merci d'être venu.
Merci Francis.
Tu nous as bien mis le feu, toi.
Ah bah écoutez, c'est un plaisir.
C'est bien.
Allez, à très vite, demain soir, 22h. Et tout de suite, Daniel, le RMC Poker Show.
Effectivement, on est là. On arrive, Mundir, notre invité ce soir, Hermance Bloom, vice-présidente du World Poker Tour.
Très bien. Allez, voilà. Bon poker et à demain dans l'after.
RMC Football Show, l'after foot.